OK, on continue notre étude sur le survol des 66 livres de la Bible. Nous en sommes rendus aux Actes des Apôtres. Alors, comme on le fait d'habitude, lors de notre première rencontre avec un livre, on étudie son arrière-plan, son contenu, son but principal, ses thèmes et aussi sa structure littéraire, les plans du livre et aussi quelques observations. On va commencer par l'arrière-plan du livre. Alors, le livre des Actes tient une place unique dans le Nouveau Testament. C'est le seul livre qui présente les débuts de l'Église chrétienne. Il constitue le maillon indispensable entre les Évangiles et les Épîtres. La Pentecôte, qui inaugure le livre, renverse la malédiction de la tour de Babel. Le langage des apôtres, y compris dans une multiplicité de langues, pose les fondements d'une église polyglotte et multiraciale, unie qui comprendra les Samaritains et les païens. L'auteur, on croit que c'est Luc, qui était médecin et aussi le compagnon de Paul. Les destinataires, on dit que les Actes des Apôtres étaient adressés à Théophile, qui était un personnage influent, et aussi aux gréco-romains cultivés. Et le lieu et la date de composition du livre des Actes a sans doute été écrit à Rome dans les années 60 après Jésus-Christ. On va regarder le deuxième point, le contenu du livre des Actes. Comme vous allez pouvoir, ceux qui ont les notes, il y a énormément de références à l'intérieur du texte. On ne regardera pas ça du tout parce qu'il y en a trop. Alors, à ce moment-là, on va juste regarder un petit peu le contenu du livre sans mentionner toutes les références bibliques qu'il y a dans le texte. Alors, les Actes nous présentent quelques épisodes significatifs de l'histoire de l'Église primitive. Ce n'est pas une histoire exhaustive des apôtres, ni même de certains d'entre eux. Luc choisit certains faits marquants qu'il raconte en détail parce qu'ils ont eu une influence décisive sur le déroulement et sur l'orientation de l'histoire, ou parce qu'ils sont significatifs de la période envisagée. La suite est ensuite résumée par un bref sommaire. Il dépeint quelques traits ou plus longuement les personnages marquants de cette époque: Étienne, Philippe, Barnabas. Et ça consacre l'essentiel de son ouvrage aux apôtres qui ont dominé la scène: Pierre, Paul. Les parallèles entre les deux hommes sont frappants. À côté des récits, nous trouvons dans Acte 24, dans Acte 24 discours insérés aux charnières importantes de l'histoire de ces premières décennies de l'Église. Il nous révèle souvent la signification des événements rapportés et nous donne des renseignements précieux sur la manière dont les premiers chrétiens exprimaient leur foi. Par exemple, les titres de Jésus: Seigneur et Christ, Sauveur, Prince de la vie, le Saint et le Juste, présent dans son Église par son Esprit et dont il prêchait l'Évangile aux Juifs et aux païens. La diffusion de l'Évangile et la croissance de l'Église sont deux leitmotivs revenant tout au long du récit. Rien ne peut arrêter cette progression. Pourtant, les obstacles ne manquent pas, venant soit de l'extérieur, soit de l'intérieur de l'Église. L'Évangile continue sa marche triomphale à travers tous les pays jusqu'au cœur de l'Empire romain. Parce que Dieu conduit souverainement les hommes et les événements, comme il l'a fait à travers tout l'Ancien Testament, selon son plan révélé dans les Écritures. Il intervient soit directement, soit par l'intermédiaire d'anges ou de prophètes, souvent en se manifestant par des signes et des prodiges. Celui qui intervient, c'est Dieu ou Jésus, car les actes confèrent au Fils les titres du Père ou le Saint-Esprit, mentionnés 62 fois dans le livre, au point qu'on a proposé de la nommer les Actes du Saint-Esprit. Remplis de l'Esprit, les apôtres et les croyants témoignent de Jésus, C'est l'esprit qui exerce la discipline dans l'Église, donne la sagesse pour résoudre les difficultés, guide les serviteurs de Dieu et les rend capables d'affronter l'opposition. Il appelle des hommes à son service, les équipe pour leur ministère, trace leur itinéraire et les guide dans l'accomplissement de leurs tâches. L'Esprit parle, réconforte, oint, rend témoignage à Christ par l'Écriture. Dès son effusion, le jour de la Pentecôte, l'Esprit a créé l'Église. Luc a un intérêt marqué pour tout ce qui touche à la vie et à l'organisation de cette Église, pour ses réunions, le plus souvent dans des maisons, en vue de la prière, de la communion fraternelle, de la fraction du pain, de l'édification et de l'enseignement. Les différents ministères apparaissent selon les besoins. Diacres, prophètes et docteurs, missionnaires, anciens, appelés aussi évêques. L'Église participe au choix de ses serviteurs et les institue dans leurs fonctions. L'unité de l'Église est une condition sine qua non de sa croissance. Une Église unie peut accomplir la mission qui lui a été confiée par son chef, porter l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Les actes nous montrent comment la foi chrétienne s'est peu à peu dégagée du cadre du judaïsme pour devenir la lumière des nations, c'est-à-dire des païens. Paul, l'apôtre des païens, continue partout à se rendre d'abord à la synagogue pour offrir aux Juifs le salut en Jésus, leur Messie. Mais dans la plupart des cas, ceux-là refusent son message. Alors il se tourne vers les païens qui l'acceptent avec joie. Ainsi, les actes retracent tout le chemin parcouru par la foi chrétienne qui a commencé par être une secte du judaïsme et qui est devenue la religion universelle, parfaitement adaptée aux aspirations et aux besoins d'un théophile et de ses semblables, comme des hommes de tous les temps et de tous les pays. On passe au troisième point, les buts, le but principal du livre des Actes. Le but du livre des Actes a fait l'objet de nombreuses recherches. Pourtant, l'auteur du livre a clairement exposé ses intentions dans le prologue de son premier livre, dans Luc 1, versets 1 à 4, qui est valable également pour le second tome. Il veut écrire un récit suivi de ce que Jésus a commencé de faire durant sa vie et de ce qu'il a continué de faire par les membres de son corps après son ascension, afin que Théophile reconnaisse la certitude des enseignements reçus. Son but est donc en premier lieu historique, raconter l'histoire de l'Église et son développement. Mais il n'écrit pas l'histoire pour l'histoire. Il veut confirmer la foi de Théophile et de ses amis ou la susciter. Le livre a donc, en second lieu, un but d'édification ou d'évangélisation. Il donne en même temps au lecteur une formation en vue du témoignage, en montrant comment les premiers chrétiens ont propagé leur foi lorsqu'ils étaient confrontés aux Juifs, à la magie, aux religions polythéistes primitives, à la philosophie grecque ou à la religion commercialisée. La méthode missionnaire de Paul, donnée en exemple, reste un modèle valable pour tous les temps. Il évangélisait les grands centres culturels et religieux et formait des collaborateurs qualifiés pour qu'ils diffusent l'Évangile dans les provinces environnantes. En retraçant l'histoire de l'Église primitive, Luc veut aussi faire comprendre au lecteur ce que signifient les faits rapportés et comment le christianisme a évolué sous la direction du Saint-Esprit. Enfin, l'auteur n'oublie pas que les Grecs et les Romains cultivés qu'il visait par son écrit se posaient différentes questions au sujet de cette nouvelle religion. Quelles sont ses relations avec le judaïsme? Quel rôle l'apôtre Paul a-t-il joué dans cette évolution? Comment cette religion se situe-t-elle par rapport à la loi et à l'administration romaine. Les chrétiens ne sont-ils pas fauteurs de troubles partout? Ces buts apologétiques sous-jacents ne sont pas incompatibles avec les buts principaux signalés plus haut. Le judaïsme était bien une religion instituée par Dieu pour préparer la voie au Messie. Mais lorsque celui-ci est venu, les Juifs l'ont rejeté et ils continueront tout au long des Actes et jusqu'au dernier chapitre à refuser son message. L'Église, composée de Juifs croyants et de païens, l'a accepté. Elle est donc la continuation et l'accomplissement du vrai judaïsme. D'où les nombreuses citations de l'Ancien Testament dans les Actes et éventuellement l'imitation consciente du style de la Septante, surtout dans la première partie du livre. L'apôtre Paul peut être en instance du jugement à Rome au moment de la publication du livre. Il était un personnage contesté, attaqué et calomnié par les judaïsants, mis en accusation par des magistrats romains. Pouvait-on faire crédit à une religion dont il était le principal protagoniste dans ces pays occidentaux? Luc s'astreint à rétablir là aussi la vérité en relevant la fidélité de Paul à la religion de ses ancêtres et à la parfaite conformité de son évangile, à celui que prêchait l'apôtre Paul, d'où les nombreux parallèles entre eux. Mais n'a-t-il pas été plusieurs fois condamné pour sédition par des tribunaux romains? Ses adhérents ne mettent-ils pas l'ordre romain en péril? Le fondateur de la religion chrétienne n'a-t-il pas lui-même été condamné à mort par un gouverneur romain? Par son évangile, Luc a répondu à cette dernière accusation. À présent, il va prouver l'innocence de Paul et des chrétiens par la deuxième partie de son livre. Chaque fois qu'un magistrat a pris la peine d'examiner la cause de Paul et de ses disciples, il a reconnu que les vrais fauteurs de troubles étaient les Juifs et que les chrétiens étaient innocents des fautes dont on les accusait. Leur religion convenait donc aussi bien aux Romains et aux Grecs qu'aux Juifs, et Paul a été accusé à tort. Si Théophile avait quelque influence à la cour de justice romaine, ou s'il avait un ami qui connaissait l'un des juges chargés du dossier Paul, il était important que cette note-là figure aussi dans le livre qui lui était dédié. Au-delà de ces différentes intentions possibles de l'auteur, nous constatons l'impact de ce livre dans l'histoire de l'Église. Sans lui, nous ne saurons rien du développement historique du christianisme à ses débuts, rien de l'arrière-plan des épîtres de Paul sur les méthodes d'évangélisation des premiers chrétiens, leurs prédications, leurs souffrances. Le Saint-Esprit s'est souvent servi des Actes pour stimuler le zèle missionnaire des chrétiens et de les amener à créer des églises vivantes sur le modèle des communautés primitives. Ces buts répondaient certainement aux intentions de l'auteur divin qui a inspiré Luc dans la rédaction de ce livre. Alors, ces thèmes et sa structure littéraire, chaque section du livre, chapitre 1 à 7, chapitre 8 à 12, chapitre 13 à 28, met l'emphase sur un auditoire particulier, une personnalité clé et une phase significative dans l'expansion du message évangélique. Le Christ ressuscité est le thème principal des sermons et des défenses dans le livre des Actes. Les Écritures de l'Ancien Testament, la résurrection historique, le témoignage apostolique et la puissance de conviction du Saint-Esprit se conjuguent pour démontrer que Jésus est à la fois le Seigneur et le Christ et le seul chemin pour le salut. La croissance de l'Église est mise en lumière dans le livre des Actes. C'est le seul livre qui décrit les événements significatifs depuis l'ascension jusqu'à l'arrivée des Épîtres. Il établit une relation entre les évangiles et les épîtres. Il raconte le développement de la communauté chrétienne qui se transforme, dont la source de sa membriété de principalement juive à principalement païenne. Ce livre apologétique présente la chrétienté comme étant distincte du judaïsme et aussi son accomplissement. Tout au long du livre, une emphase se développe sur l'activité du Saint-Esprit et la puissance de la résurrection de Jésus. À cause de cette forte emphase sur le ministère du Saint-Esprit, ce livre pourrait être considéré comme les actes de l'Esprit de Christ œuvrant dans et à travers les apôtres. Comme d'habitude, je vous ai mis les deux plans, un plan succinct, donc un plan très, très résumé du livre, et aussi très détaillé pour les pages suivantes. Alors, ça peut être utile, vraiment utile, si vous voulez étudier le livre plus en profondeur. On va regarder maintenant le sixième point, quelques observations sur le livre des Actes. Alors, on parle des idées-forces. Une lecture attentive des Actes décèle un certain nombre de formules et de constatations revenant comme un leitmotiv. Elle semble destinée à souligner quelques idées-forces et donne au livre un mouvement général qui conduit le lecteur d'un point de départ vers un but précis évoqué plusieurs fois au cours de l'ouvrage. Ces pensées dominantes nous aideront à préciser les buts de l'auteur et les messages principaux qu'il voulait laisser à ses lecteurs en même temps que sa théologie. Nous nous contenterons ici de les mentionner sans les développer. Alors, on va les reprendre une par une. Premier thème, première idée force, la diffusion de l'Évangile et de croissance de l'Église. Deuxième, nous montrer que rien ne peut arrêter la progression de l'Évangile. Troisième, l'unité de l'Église conditionne sa croissance. Ça fait réfléchir, ça. Quatrième, les actes de Dieu, les différentes facettes sont, les événements sont vus comme produits par la volonté de Dieu et selon son plan. La vie de l'Église est un accomplissement des Écritures. La vie de l'Église est dirigée par Dieu aux moments cruciaux. Anges, prophètes, apparition du Seigneur lui-même, des signes et des prodiges. Cinquième, les actes de Jésus. Il continue d'agir à travers les personnes des chrétiens. En dehors des évangiles, Actes est aussi le livre du Nouveau Testament qui parle le plus du ministère terrestre de Jésus. Acte 4, 12, « Il n'y a de salut en aucun autre », avait proclamé Pierre. Le salut, c'est Jésus lui-même. C'est pourquoi tout ce qui se passe dans les Actes est l'œuvre de Jésus. Autre point, autre idée force, les actes du Saint-Esprit. Le mot grec « pneuma » revient 62 fois dans le livre, plus que dans tout autre récit dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi Jean Chrysostome proposait de l'appeler « les actes du Saint-Esprit ». Une autre idée force, c'est les actes de Pierre et aussi de Paul. Une idée force, l'Évangile universel. En parlant des extrémités de la terre comme but ultime des témoignages des chrétiens. Luc indiquait, par le contexte d'Ésaïe 49, verset 6, évoqué par cette expression, que l'Évangile devait éclairer les nations, c'est-à-dire les païens. Et, autre idée force, le christianisme n'est pas fauteur de troubles, les chrétiens sont politiquement inoffensifs. L'examen des circonstances du désordre révèle que les fauteurs de troubles étaient généralement les juifs, parfois des adorateurs d'idoles excités par les commerçants qui voyaient leurs intérêts contrariés. À l'intérieur, je vous ai mis une liste de tous les sermons qu'il y a à l'intérieur du livre des Actes. C'est surprenant de regarder ça. Alors, plusieurs sermons et discours sont enregistrés dans le livre des Actes. Plus de 20, dont 7 pour Pierre et 11 pour Paul. Nous listerons ci-dessous les significatifs avec leur thème et leur localisation. Alors, ce que vous avez dans le tableau, là, c'est tous les discours ou les sermons qu'il y a eu. On parle de 20, là, c'est beaucoup. Là. Alors, on pourrait étudier ça, et ça parle non seulement qui l'a dit, c'est à quoi le thème de son sermon, puis la référence, vous pouvez trouver la référence. Alors, ça sera sûrement une étude extrêmement intéressante à étudier tous les sermons qu'il y a dans le livre des Actes. Et il y a aussi, donc les sermons majeurs sont là, il y a aussi les visions. Dieu a souvent utilisé les visions pour faire connaître sa volonté. Dans le livre des Actes, les leaders de l'Église, Pierre et Paul, ont souvent été guidés par des visions pour le ministère futur. Alors, je vous ai mis les visions qu'il y a dans le livre des Actes, donc la personne qui a reçu la vision, le message qu'il y avait dans la vision et la référence biblique. Alors, on ne rentrera pas dans les détails de ça ce soir non plus, mais il reste que quelqu'un qui veut faire une étude sur les visions, vous avez ici tous ceux qui en ont reçu dans le livre des Actes, quelle était la nature de la vision et dans quelle partie du livre que vous avez cette chose-là décrite. Ça aussi, ça pourrait être une étude extrêmement intéressante à faire pour voir comment la Bible parle des visions et comment Dieu les utilise pour faire avancer son évangile. Et vous avez aussi les délivrances. À l'intérieur du livre des Actes, vous avez plusieurs délivrances. Alors, il y a eu les apôtres qui ont été délivrés de prison par un ange. Il y a eu Dorcas, qui a été ressuscité des morts par Pierre. Il y a eu Pierre lui-même, qui a été libéré de prison par un ange. Il y a eu Eutychus, ou Eutychus, ranimé par Paul après sa chute du troisième étage. Et Paul avait été sauvé d'une énorme tempête et d'un naufrage de navire à l'île de Malte. Alors, les délivrances dans le livre des Actes, ça serait tout un autre thème à étudier en profondeur. Comment Dieu agit dans les moments difficiles et qu'est-ce qu'il fait aussi, souvent c'est miraculeux, les réponses aux problèmes qui sont arrivés. Alors, nous pourrions bien sûr allonger la liste à étudier dans le livre des Actes. Les caractères des personnes, Philippe, Étienne, Barnabas, Silas, etc. On pourrait faire aussi une comparaison des ministères de Pierre et de Paul. On pourrait faire aussi une étude des voyages missionnaires, une étude de l'œuvre du Saint-Esprit, une étude aussi des expériences de prison, etc., etc. Alors, c'est un livre extrêmement riche qui peut nous donner beaucoup de choses à étudier et à méditer sur les choses du Seigneur. Alors, comme application, j'en ai seulement qu'une. Le livre des Actes est extrêmement riche en enseignements de toutes sortes. Consacrons-lui du temps pour l'étudier en profondeur. Nous serons richement bénis et récompensés. Que notre grand et glorieux Seigneur soit béni, loué et adoré pour sa sagesse dans la création et le développement de cette glorieuse institution, l'Église de Jésus-Christ. Amen.